France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Mickaël Darmon, journaliste à I24 News, Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Jemsteg, directeur du département opinion et politique d'Ipsos, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Haro sur les écrans pour les tout-petits. Un rapport d'experts commandé par le président préconise notamment d'interdire l'usage des écrans au moins de 3 ans. Alors c'est un rapport qui alerte sur l'hyperconnexion subie des enfants et ses conséquences sur leur santé. Bonsoir Sabine Duflo.
Bonsoir.
Vous êtes notre experte à distance ce soir, psychologue clinicienne, fondatrice du collectif Surexposition Écran et auteure du livre « Ils ne décrochent pas des écrans, comment protéger nos enfants et nos adolescents » aux éditions de l'Échappée. Est-ce que les conclusions de ce rapport vous étonnent ?
Alors, on est agréablement surpris parce que ça fait à peu près depuis 2020 que on réclame, outre une prévention, une législation. Et notamment les recommandations reprennent en grande partie ce que notre collectif soutient depuis de nombreuses années, à savoir pas d'écran du tout pour les moins de 3 ans, un usage très limité entre 3 et 6 ans et avec des contenus éducatifs et visionnés en présence de l'enfant. Et pour ce portable, une interdiction d'un portable connecté à Internet jusqu'à l'entrée au collège, au lycée, et en remplacement un téléphone pour, c'est-à-dire sans connexion Internet.
Mais pourquoi, Sabine Duflo, concrètement, dites-nous quel est l'impact vraiment des écrans sur le cerveau des petits-enfants?
En fait, la principale compétence que l'enfant a à construire, que le petit homme a à construire, se construisent dans une interaction avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Ses principales compétences, c'est le langage, un langage de communication hein, et pas de répétition. C'est une capacité d'attention volontaire, focalisée, et c'est une régulation du comportement et régulation socio-émotionnelle. Ces quatre compétences principales ne peuvent se développer que dans une interaction avec un adulte qui est disponible pour l'enfant. C'est pour ça que réglementer l'usage des écrans, il faut toujours commencer par réfléchir à l'usage des adultes qui s'occupent de l'enfant, à savoir les parents, mais aussi tous les personnels en charge des enfants et des adolescents.
Vous restez avec nous, Sabine Duflo. On va faire un petit tour de table avec nos informés sur le principe. Est-ce que vous êtes d'accord à interdire les téléphones au moins de 3 ans? Ou est-ce que quelqu'un est pour les écrans pour les enfants? Ici, il faut dire que parfois, il faut le reconnaître, pour certains parents, c'est pratique aussi d'apaiser son enfant en le mettant devant un écran. Jean-Sébastien Ferjou.
C'est pas une raison pour le faire d'ailleurs, juste parce que c'est pratique. Moi, je trouve que ce sont des débats qui sont très utiles parce que ça sensibilise à la question justement de l'impact cognitif des écrans. Et il faut savoir le reconnaître, ça a été conçu pour être addictif, hein, pour générer une addiction physiologique.
C'est un business, disent les experts.
De toute façon, nous vivons dans une économie de l'attention et oui, c'est conçu pour capter véritablement l'attention. Après, l'interdiction, je la trouve ridicule. Enfin, c'est totalement grotesque. Il va y avoir des agents de l'État qui vont venir chez vous, mettre de la reconnaissance faciale pour savoir si vous êtes... Et je pense que le vrai sujet, il y a une forme de paresse intellectuelle à aller vers cette interdiction parce qu'on confond le contenant et le contenu en quelque sorte. Alors, je ne vous parle pas des très jeunes enfants, hein, mais il faut surtout former les parents et les aider, les accompagner, y compris les équipes de l'éducation nationale aussi, parce que des fois on dit, ah ben, il faut lutter contre le harcèlement. Mais si vous êtes un professeur, qu'est-ce que vous faites quand le harcèlement il se passe sur des boucles Snapchat? Parce que vous ne voyez pas les boucles Snapchat, vous pouvez intervenir dans ce que vous voyez dans la cour d'école. Et tout ça, il y a une espèce de renoncement des pouvoirs publics en disant finalement, ah ben, tiens, on va interdire, sûrement que ça va gérer le problème. Bah oui, tiens, t'as qu'à croire, ça va gérer le problème. On peut interdire les couteaux peut-être aussi, puis on verra s'il y a plus d'attaque. Enfin, vous voyez bien que c'est absurde.
Non, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que justement,
c'est important que tout le monde soit conscient de l'impact cognitif que ça a sur les enfants, soit conscient aussi en matière d'attention, nos attentions, mais à tous, hein, aux adultes aussi. Nous ne sommes plus capables d'avoir une attention soutenue sur le long terme, parce que des vidéos TikTok, des Reels sur Facebook, etc., c'est une succession de choses de 30 secondes, et donc regarder ne serait-ce qu'une émission d'une heure, ou regarder même un film plutôt que de regarder des épisodes d'une série, eh ben, ça devient difficile. Alors lire un livre, je ne vous en parle même pas, c'est valable pour toute la société, et donc pour le coup, je rejoins ce que disait Madame Duflo, c'est-à-dire que ça n'a de toute façon pas de sens si les parents eux-mêmes, on pourrait toujours l'interdire ou dire ne fais pas ci, mais si les parents eux-mêmes passent leur temps à avoir le nez sur des écrans, de toute façon ça ne change rien. Donc ayons plutôt une réflexion collective sur notre usage, une exigence sur les algorithmes, parce qu'on oublie beaucoup l'impact des algorithmes. Les algorithmes, ça change énormément de choses. C'est pas tant le contenu que pourquoi tel ou tel contenu. Les enfants, par exemple, sur TikTok, il suffit de 20 minutes passées sur TikTok, 20 minutes pour qu'un adolescent, enfin, ou un jeune enfant soit confronté à des contenus qui font la promotion de l'anorexie, du suicide, des armes à feu, des drogues. 20 minutes. Mais ça, c'est les algorithmes. Ça, c'est les pouvoirs publics qui ne demandent pas de compte aux géants des réseaux sociaux sur les algorithmes. C'est pas en soi les écrans. C'est comme la télé. Hein. Vous pouvez regarder, ou c'est comme un livre, ou c'est comme la presse. Vous pouvez lire Mein Kampf, comme vous pouvez lire un livre qui vous alerte sur les dangers du nazisme. C'est pas l'objet livre en soi qui est l'enjeu.
Sabine Duflo, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou? Il faut demander des comptes aux réseaux, aux plateformes. Il faut aller plus loin.
Alors, excusez-moi, ça saute un peu le son. Ce que nous disons, ce que dit le cause et ce que dit d'ailleurs, je pense, ce rapport, dont je n'ai lu que la synthèse, hein, ça fait 142 pages, c'est, contrairement à ce que dit votre invité, ça n'est bien sûr pas une interdiction au sein des familles. Ce que nous disons, nous, dans le cause, c'est qu'il faut prendre le modèle sur ce qui a été fait pour le tabac ou l'alcool. Ce sont des deux substances dont on connaît depuis très longtemps les effets secondaires néfastes, en particulier chez les mineurs, mais des politiques de santé efficaces sont intervenues quand on a légiféré concernant les mineurs. Et on n'a pas légiféré dans les familles, bien entendu. On a légiféré dans l'espace public,
forcément les familles qui
en interdisant l'achat pour un mineur d'alcool ou l'achat... voilà. Alors, rien n'interdit, bien
vous
entendu,
les
parents
les
de faire
informer
voir les
sur
enfants
ce
dans
plateau.
Les familles, mais à partir du moment où on donne où c'est interdit pour un mineur, ça envoie un signe la famille sur lequel elles vont pouvoir s'appuyer. Et c'est ce qu'elles disent. Elles disent toutes, elles demandent d'armes dans la famille. Elles disent il faut que l'État donne exemple en interdisant, par exemple, vous voyez, l'achat d'un portable pour un moins de 15 ans, un portable avec connexion Internet. Voilà. Et puis, l'autre chose, votre invité parlait des réseaux sociaux, etc. Alors, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux et des méfaits. Il n'y a pas que ça, que les contenus que les enfants aiment. Mais je crois qu'on a parlé beaucoup parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dessus. S'il n'y a pas de réseau, grand réseau sociaux français. En revanche, par exemple, les jeux vidéo qui ont été reconnus par l'OMS en 2018 comme engendrant un comportement d'addiction des jeux d'argent, on n'en parle pas, je pense, pour des raisons financières, parce que, par exemple, en 2022, c'est 5,5 milliards de chiffre d'affaires en France, à peu près 1200 entreprises, donc ça, c'est passé sous silence.
Vous voilà. Restez avec nous.
Parler des contenus, de la différence de contenu, ça, c'est un peu ridicule. On sait bien que ce que les enfants regardent et aiment regarder, c'est des contenus éminemment addictifs. Quand vous allez voir un médecin, un addictologue, il vous demande... Est-ce que vous buvez? Et bien entendu, on sous-entend, est-ce que vous buvez du vin? Il ne va pas vous demander, est-ce que vous buvez de l'eau?
20h, 21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Zumsteg de l'Ipsos, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News. Je vous voyais réagir vivement en entendant cette idée d'interdire, de légiférer, de rentrer dans... Est-ce qu'il ne faut pas envoyer un signal aux parents, comme disait Sabine Duflo? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un mode d'emploi? Vous trouvez ça naïf?
Non, c'est pas de la naïveté. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, au fond, il n'y a pas, de la part des associations et de tous ceux qui ont fait des travaux très importants pour attirer l'attention, au fond, une demande, cette fois-ci, de mode opératoire. De décision opérationnelle. Parce que les associations, la personne qu'on vient d'entendre, Madame Duflo, est très contente parce que les recommandations sont reprises par l'exécutif et qu'il y a eu un rapport qui a été transmis au président et qui reprend leurs recommandations. Et ensuite, et demain? On a entendu le chef du gouvernement qui a dit les politiques devront changer sans donner de détails.
Vous voulez dire qu'on ne donne pas les moyens d'y arriver?
Et pas du tout. Et d'abord, une fois de plus, l'interdiction pure et simple. Madame reprenait l'exemple de l'alcool et du tabac. C'était du coercitif. Oui, donc de ce point de vue-là, on ne voit pas pourquoi on serait, on aurait un autre mode opératoire si vraiment on veut interdire des portables. Et comment peut-on le faire? Je dis bon courage pour l'exécutif qui va essayer d'interdire les portables. Ensuite, il y a effectivement, une volonté de l'exécutif de poser une fois de plus le discours d'autorité.
Et voilà. De dire, voilà, donc pour vous, c'est de la communication, en fait.
Complètement.
Emmanuel Macron veut faire de ce sujet des réseaux sociaux un marqueur?
Écoutez, comment dirais-je, il y a eu plusieurs conventions citoyennes dont on a vu les résultats plus ou moins aléatoires après les effets d'annonce. On a vu qu'il y a plusieurs gadgets politiques qui ont été lancés sans lendemain. Donc je pense qu'on est sur une volonté générale de l'exécutif de poser régulièrement le sujet de l'autorité, de l'interdiction, de la répression, parce qu'il y a un moment politique extrêmement crucial qu'on est en train de vivre en ce moment, et qui est effectivement une société française qui est à bout et qui demande beaucoup d'autorité.
Vous êtes d'accord, Laurent Mouloud ?
Pas du tout. Non. si. Sur certains aspects, non. Mais par contre, je suis pas aussi pessimiste que vous. Moi, je trouve que l'initiative de faire ce rapport est plutôt salvatrice, de donner des repères précis aux parents sur des tranches d'âge, sur ce qu'on peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ou en tout cas ce qui n'est pas souhaitable. C'est pas un sujet aussi anodin et évident que ça. Et moi, pour l'avoir vécu personnellement dans mon parcours de père aussi, je pense que une certaine moment de la vie, on tâtonne aussi sur ce qu'il faut faire avec les enfants. Avoir un discours un peu construit scientifiquement, comme ça l'est ici, qui vient de la part de l'État aussi, c'est pas n'importe quel interlocuteur, qui dit ça à l'ensemble des parents français, je trouve ça plutôt quelque chose de positif.
Mais qu'est-ce que ça aurait changé pour vous, l'interdiction, par exemple ?
Qu'est-ce que ça aurait changé ? En fait, c'est qu'on est parfois démunis sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut enlever, arrêter de supprimer un portable? À quel âge il faut le donner? C'est des débats aussi qu'il peut y avoir entre parents. Et moi, je pense, entre 0 et 3 ans, ça paraît tellement évident pour la plupart des gens que, quelque part, il n'y avait pas tellement de débats là-dessus. Mais c'est quand on arrive au collège. Évidemment, à 11 ans, au moment où l'adolescent construit aussi sa personnalité et que les réseaux sociaux sont un endroit de sociabilisation et d'identification aussi aux autres adolescents, ça devient un combat et une difficulté, une lutte pour savoir ce qu'il faut faire et comment, où placer le curseur entre l'interdiction et l'autorisation, entre la prohibition qui forcément évidemment a un effet boomerang et le tout laisser faire en disant ça va se réguler par eux-mêmes comme le marché libre. Eh bien, il y a j'imagine que ces rapports-là apportent aussi de la réflexion là-dessus, apportent aussi des repères qui sont peut-être pas des choses à prendre au pied de la lettre pour tout à chacun, mais en tout cas qui donnent aussi des repères importants pour pouvoir mettre en place de l'éducation aussi, à la fois des parents si on veut, et également aussi des prises de conscience des enfants eux-mêmes et des jeunes avec qui on peut en discuter sur des choses concrètes.
Sabine Duflo, d'un mot avant de vous laisser, qu'est-ce que vous attendez de ce rapport maintenant ? Quelle suite vous en attendez ?
J'attends qu'il y ait des applications évidemment concrètes. Je suis toujours étonnée de pour rejetant tout aspect contraignant dans l'éducation, parce que il n'y a pas de la protection des enfants, elle passe. On ne protège pas un enfant sans interdire, quoi. Et tous ces discours qui rejettent toute interdiction sont des discours qui malmènent grandement l'enfance.
Mais je crois qu'il ne faut pas confondre le fait d'interdire à un enfant et le fait d'interdire à un
adulte. Dès qu'on a un portable des 3-4 ans, c'est vraiment maltraitant. Être exposé à de l'hyperviolence, des scènes de décapitation en série, comme je vois des jeunes des 10 ans, 9 ans qui voient ça sur Telegram ou d'autres, c'est extrêmement maltraitant. Alors, tous les discours qui rejettent toute législation, toute protection sont des discours qui sont très maltraitants pour l'enfant. Les parents ont bien constaté les effets de, ils sont pas idiots, ils ont essayé plusieurs choses avec les enfants, de discuter, etc. Mais à cause du caractère éminemment addictif de ces applications, du manque de repères, ils sont perdus. Et je le répète, il faut un exemple de l'État, comme on l'a fait le tabac ou pour l'alcool.
Vous voulez réagir, Jean-Sébastien Ferjon ?
Non, mais oui, parce que je pense que j'ai certainement jamais fait partie des gens qui contestaient le fait qu'il fallait un cadre et assumer un principe d'autorité dans l'éducation. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fait d'interdire quelque chose à un enfant et le fait d'interdire quelque chose à un adulte. Parce qu'encore une fois, je veux bien que Madame Duflo m'explique que avant 3 ans, ça ne concerne pas les familles. Ben évidemment que si, ça concerne les familles. Qui contrôle l'usage d'un écran par un enfant de 3 ans, à part les familles ? Enfin, faut arrêter de dire quand même des choses absurdes quant au fait de regarder des vidéos de décapitation. Pardon, moi. aussi, je suis père, moi aussi j'ai des jeunes enfants, ça dépend quand même totalement de l'éducation que vous donnez à vos enfants, ça dépend du contrôle, ça dépend, il peut aussi y avoir des activités éducatives, ça se fait dans d'autres pays. Enfin, franchement, on est en train de s'enfermer, mais dans des débats déjà qui, en termes de liberté publique, mais sont effarants, mais vraiment en termes de liberté publique, sont effarants. Après, je continue à penser que le fait d'alerter, de faire de la pédagogie sur l'impact cognitif, sur l'impact, sur l'addiction, effectivement, que ça génère, ça, c'est extrêmement important.
Merci beaucoup. Merci Sabine Duflo, psychologue clinicienne, fondatrice du collectif Surexposition Écran. Merci d'avoir été avec nous. On va laisser les écrans, les tout petits, pour ce soir, et on va s'intéresser aux très grands patrons. Sont-ils trop payés, nos grands patrons? Alors la question est récurrente, mais elle a ressurgi au regard du dernier rapport de l'association Oxfam, un rapport qui révèle que les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés en 2022. Inacceptable pour la patronne d'Oxfam France, Cécile Duflo, cette fois écoutée.
Avec un écart qui est délirant, en fait, si on y réfléchit, puisque 130 fois plus, c'est pas raisonnable par rapport aux efforts fournis par les uns et les autres. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que si cet écart augmente, c'est parce qu'en fait, les dirigeants sont remerciés par les actionnaires de distribuer massivement des dividendes. Et si cette distribution de dividendes se fait, c'est au détriment des salariés.
Je vais vous laisser à tous les quatre une minute pour réfléchir.